David Ganozzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Fidelity Gestion. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Alors, on a connu effectivement ce que certains ont appelé un crack au mois d'août. Le mois de septembre a commencé quand même de manière assez difficile. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, aux investisseurs qui regardent ce marché? Il y a d'abord une peur sur ce marché, il y a d'abord beaucoup d'inquiétudes, inquiétudes qui étaient là au mois d'août, qui reviennent au mois de septembre, qui vont revenir.
Oui, je crois qu'il y a effectivement beaucoup d'inquiétudes sur le marché, mais des inquiétudes qui me semblent assez justifiées. Alors c'est vrai que les choses sont allées extrêmement vite, mais il me semble que du point de vue de ce qu'on appelle les fondamentaux, eh bien les dernières semaines, et surtout à partir de la fin du mois de juillet, on a assisté à deux choses qui sont des choses assez inquiétantes. Premièrement, un ralentissement qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait jusqu'à présent, dans les pays développés et aux États-Unis notamment. Alors on n'est pas encore dans les phases de récession, mais on a des indicateurs qui sont quand même assez inquiétants. Premier point. Et deuxième point, la question de la crise des dettes publiques dans la zone euro qui a pris une ampleur supplémentaire et importante avec une contagion à de grands pays. Et donc ces deux éléments qui sont concomitants et qui sont arrivés de façon assez rapide et brutale me semblent justifier en grande partie ce qu'on a pu voir sur les marchés.
On a vu notamment, hein, bien entendu, le secteur bancaire attaqué de manière massive. C'est le premier secteur et du coup les indices derrière, beaucoup d'indices forcément dépendent de ces valeurs bancaires, mais c'est le secteur le plus en danger.
Alors, disons que le secteur bancaire, il cristallise un petit peu les deux aspects qu'on a évoqués. Bon, évidemment, la question des dettes publiques, hein, parce que qui dit crise des dettes publiques en euros pense bien évidemment au secteur financier dans son ensemble, valeurs bancaires et assurances, qui sont extrêmement exposés à ce risque de dette publique. Mais je dirais plus pour le secteur bancaire aussi, il y a quand même une dimension un peu cyclique, hein, c'est-à-dire que qui dit ralentissement de l'économie dit en général aussi moins bonne performance des valeurs bancaires, parce que les valeurs bancaires sont quand même des valeurs qu'on peut qualifier de relativement cycliques, dont les profits sont très sensibles à la tenue de la conjoncture.
On a beaucoup débattu sur les marchés, on pourrait dire depuis la crise, hein, depuis la faillite de Lehman Brothers, des questions d'inflation, de déflation. Alors
Oui.
quand le pétrole était à des niveaux élevés, effectivement, on avait plutôt tendance à
Oui.
dire que l'inflation était là. C'est un basculement permanent.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce qu'il faut avoir peur plutôt d'inflation effectivement, ou de déflation?
Je crains que malheureusement il faille avoir peur sur des horizons raisonnables de quelques trimestres ou quelques années. C'est plutôt le risque de déflation qui me semble un risque sérieux parce que effectivement on a vu une reprise de l'inflation au cours de la période récente, mais qui est uniquement liée à l'évolution du prix des matières premières. Donc toute la phase de remontée de l'inflation qu'on a connue, c'est uniquement la hausse du prix des matières premières. Il n'y a aucune transmission, on peut dire, de l'inflation à des mécanismes fondamentaux comme les salaires. On voit bien que les salaires n'augmentent pas, donc c'est ça le vrai risque inflationniste. Et dans le même temps, on assiste aujourd'hui à un ralentissement assez sévère de l'activité. Donc je crains que d'ici quelques mois ou plus rapidement, le risque qui vienne à l'esprit soit plutôt le risque de déflation, c'est-à-dire de baisse à la fois de l'activité et de baisse des prix.
Au cours des derniers mois également, on parlait des marchés émergents qui pouvaient peut-être sauver en quelque sorte les autres pays grâce à leur croissance. C'est vrai que quand on voyage dans ces pays-là, on voit bien qu'il y a une croissance qui est toujours là, peut-être un peu moindre que effectivement celle des derniers mois. Est-ce que les pays émergents aujourd'hui finalement sont pas en train de subir ce qui se passe dans la zone euro, ce qui se passe aux États-Unis?
Si, ils le subissent d'une certaine façon. Ce qu'on observe quand même, c'est que comme les pays développés, les économies émergentes sont en phase de ralentissement, mais sur des bases à partir de niveaux qui étaient beaucoup plus élevés. Et je dirais que même pour les pays émergents, c'est plutôt une bonne chose que les économies ralentissent, puisqu'il y a quelques mois, le risque, hein, c'était vraiment un risque de surchauffe. On a globalement des politiques économiques qui sont plutôt resserrées dans les pays émergents. Donc je dirais que pour le moment, on a un ralentissement qu'on observe dans les pays émergents, mais je dirais que ce n'est pas quelque chose de trop ennuyeux aujourd'hui. Par contre, on voit bien que si le ralentissement dans les pays développés devait prendre une ampleur beaucoup plus importante et si on devait parler de récession aux États-Unis, là, probablement qu'effectivement, les pays émergents seraient eux aussi touchés dans des proportions assez importantes. Si, sur les émergents, justement, il y a un point qui est intéressant avec un événement qui est passé un petit peu inaperçu, c'est la baisse des taux qu'on a observée au Brésil la semaine passée, hein, et qui montre bien justement ce changement d'environnement, puisqu'on était dans un environnement de risque inflationniste dans les pays émergents et le fait que la Banque centrale du Brésil relâche sa politique monétaire, ça montre bien que les perspectives de croissance se dégradent et que le risque inflationniste devient un risque beaucoup moins important aujourd'hui.
Alors, on a vu aussi les investisseurs beaucoup suivre au cours des derniers mois, voire des dernières années, bien sûr, ce que faisaient la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, quand on discute avec les investisseurs, ils ont tendance à dire, aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine, finalement, n'a plus de moyens. Elle a essayé deux fois de relancer l'économie américaine. Ce n'est pas le cas. Alors, on a un plan Obama qui va être effectivement annoncé et détaillé. Ceux qui sont vraiment noirs sur les marchés, ils mettent ça en avant, dire, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de munitions. Ces autorités ne peuvent plus aider en quelque sorte.
Disons que effectivement, on est un petit peu au bout du processus, on va dire classique de soutien à l'activité, pas uniquement sur la politique monétaire d'ailleurs, sur les politiques budgétaires aussi, puisqu'on voit bien avec les crises des dettes dans la zone euro, mais aussi avec la dégradation de la dette publique américaine, qu'on est allé très loin en termes de soutien à l'activité du point de vue de la politique budgétaire. Et du point de vue de la politique monétaire, avec des taux qui sont extrêmement faibles. Donc c'est un des motifs d'inquiétude qui me semble assez justifié aujourd'hui, dans le sens où, face au ralentissement économique qu'on observe en ce moment, il y a très peu de marge de manœuvre pour les pouvoirs publics pour contrer ce ralentissement de l'activité. Alors on évoque effectivement des choses moins classiques, avec des opérations du quantitative easing, par exemple, aux États-Unis, mais on voit bien que là, on est plus dans le soutien au marché que dans le soutien à l'économie. Pour soutenir l'économie et pour aider au désendettement, les banques centrales ont fait à peu près tout ce qu'elles pouvaient faire et elles l'ont plutôt bien fait. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas et ça aide au désendettement. Mais aller au-delà, ça paraît difficile aujourd'hui.
On sent bien qu'il faudrait donc un retour à la confiance. Aujourd'hui, on en est loin. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut ramener un peu de confiance? Alors, on ne dit pas, moi, peut-être un peu plus de tranquillité. En tout cas, il y aura toujours de la volatilité, sans doute dans les prochains mois, mais ramener petit à petit la confiance. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être un peu plus positifs sur ces marchés?
Alors, ça me semble être un point très important parce que jusqu'à présent, on peut dire qu'on a des marchés qui ont très fortement baissé et une économie qui a fortement ralenti. Le risque, il est qu'on ait quelque chose d'auto-entretenu et d'auto-réalisateur où effectivement cette crise sur les marchés se traduise par, on va dire, un comportement très attentiste de la part des chefs d'entreprise et des ménages qui finissent lui-même par plonger l'économie en récession. Donc effectivement, c'est une question cruciale, la question de la confiance, parce que tout ça est très lié et très auto-entretenu en fait. Qu'est-ce qui pourrait aider aujourd'hui? Je pense que beaucoup de choses sont quand même dans les mains des pouvoirs publics, notamment dans la zone euro, quand on voit des responsables politiques qui prennent les problèmes en main et qui apportent des solutions, on va dire, concrètes de façon coordonnée et rapide, ça peut être quelque chose qui peut aider à la confiance. Honnêtement, très honnêtement, jusqu'à présent, les choses sont un peu désordonnées. Donc jusqu'à présent, je dirais que les gouvernants n'ont pas trop aidé à restaurer la confiance. Idem aux États-Unis, avec le débat sur la dette publique qui a traîné jusqu'à la date limite. On voit bien que de la part des pouvoirs publics, il y a peut-être une forme de désinvolture dans le traitement des problèmes auxquels sont confrontés les pays aujourd'hui.
En conclusion, comment évolue justement votre stratégie d'investissement dans ce contexte qui reste encore fragile? On voit les investisseurs les plus peureux quelque part qui vont sur l'or, peut-être avec raison d'ailleurs, ou sur le franc suisse ou sur le bund allemand. En termes d'investissement, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période-là?
Alors en termes d'investissement, très concrètement, à la fin du mois de juillet, moi j'avais encore dans des portefeuilles diversifiés des positions qui étaient relativement pro-cycliques, c'est-à-dire relativement agressives, privilégier les actions, les matières premières par rapport aux produits plus défensifs. Ce que j'ai fait au tout début du mois d'août, c'est réduire la voilure. Donc j'ai des portefeuilles aujourd'hui qui sont plus, on va dire, prudents. Donc réduction de l'exposition aux actions, réduction de l'exposition aux matières premières, et puis surexposition sur les obligations bien notées. Donc je pense que sur un horizon de quelques mois, malheureusement aujourd'hui, il faut conserver un biais plutôt prudent. Si les choses devaient se gâter, et elles peuvent se gâter encore un peu plus, c'est-à-dire que si l'économie américaine entrait en récession, je serais amené à réduire encore un petit peu la voilure sur les portefeuilles. Bon, à l'opposé, si les choses se calment, ce qui est possible aussi, on est vraiment sur une situation extrêmement tangente en ce moment, revenir un petit peu progressivement sur les actifs un peu plus risqués.
Merci d'avoir fait le point avec nous, David Ganozzi. On rappelle que vous êtes donc directeur général de Fidelity Gestion.
Merci.